Alors, avant de donner le micro à Pasteur Verriquin qui va pouvoir venir nous enseigner sur la parole, j'aimerais lire avec vous le passage de Jean dans le chapitre 11, versets 33 à 45. Alors, pendant que vous ouvrez vos Bibles ou alors que vous attendez que ce soit affiché à l'écran, je ne sais pas si vous réalisez à quel point on est vraiment privilégié et gracié de pouvoir avoir accès à ce que j'appelle et ce qu'on appelle la vérité. On est vraiment dans une société où est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai du faux. Mais nous, on connaît cette vérité. Et cette vérité porte un nom. Et c'est le nom de Jésus. Et quand Dieu a créé la terre, l'univers, l'homme, il l'a créé par la parole. Il a prononcé des mots. Il a parlé. Et c'est cette même parole-là qui s'est incarnée, s'est fait chair et a interagi avec nous, les humains. Et c'est fascinant de voir que Dieu, étant tout puissant, s'est vraiment réduit à la personne d'un être humain humble et serviteur, et qu'on peut voir les attributs de Dieu dans ce même homme-là, et qu'on va lire dans Jean 11. Donc, la parole de Dieu va comme suit. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voilà la parole de Dieu.
Quand on me dit, « Allons à la maison de l'Éternel. » Je suis vraiment content d'être avec vous. C'est un plaisir renouvelé d'être tous ensemble pour adorer notre grand Dieu, notre grand Seigneur, celui qui nous a tous sauvés par son sang. Je tiens d'emblée à remercier Pasteur Dominique Préjean et M. Arnaud pour nous avoir délivré le message de la parole durant les 2 dernières semaines. Je bénis le nom du Seigneur pour la justesse de leurs propos. Je bénis le nom du Seigneur pour la clarté et la profondeur de leur message. C'était vraiment édifiant. J'aimerais aussi vous rappeler à tous, toute personne qui est désireuse de rencontrer le conseil, on est là si vous avez des questions à poser. Et si vous passez à travers certaines difficultés, on est là aussi pour vous accompagner dans ces difficultés. On vous promet de vous tendre une oreille pour vous écouter. L'histoire que Mme Hurtado vient de lire, c'est un classique. Presque tout le monde sait ici le début de l'histoire, le déroulement de l'histoire et la fin de l'histoire. Donc, il va être très difficile pour moi, quelque peu, de vous surprendre, parce que c'est un film qu'on a vu et revu et revu. Mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous partager. Parce que dans ce passage, c'est rempli d'espoir et d'espérance. D'espérance véritable pour celui qui croit, pour tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a beaucoup d'espérance dans ce passage. Trois choses qu'un chrétien doit toujours amener avec lui, peu importe où il s'en va. Il doit toujours amener avec lui un témoignage de Jésus, un témoignage de ce que Jésus a fait pour lui et un témoignage de son œuvre expiatoire. Je le redis parce que la répétition nous est tous salutaire. Un témoignage de Jésus, un témoignage de ce que Jésus a fait pour nous et un témoignage de son œuvre expiatoire. Donc le passage lu ce matin, c'est Jean qui est l'auteur de ce passage. Nous connaissons tous que Jean avait une relation tissée, serrée avec le Seigneur. Il avait développé une amitié extraordinaire au point qu'il pouvait mettre son oreille sur la poitrine du Seigneur. Est-ce qu'on réalise que Jean pouvait entendre les battements de cœur du Seigneur? Il pouvait sentir les vibrations, les palpitations, la respiration du Seigneur. Il pouvait entendre aussi et ressentir les émotions du Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit le choisit pour écrire ce passage. Parce que dans ce passage, Jean va nous décrire les sentiments intérieurs de notre Seigneur. Il frémit en lui-même. Il parle de la compassion, tout ce qu'il est ému de compassion. Devant la douleur des siens, Jésus-Christ n'est pas de glace. Il y a une famille qu'il aime par-dessus tout et qui est dans l'épreuve. Il pleure avec eux. Il vit l'épreuve avec eux. Oui, c'est vrai, il va ressusciter Lazare, mais il va tous aussi nous ressusciter. Mais ce n'est pas parce qu'il va nous ressusciter qu'aujourd'hui, dans l'épreuve, qu'il ne soit pas là pour compatir pour nous. Il dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». On va amener le Seigneur au sépulcre et là, il va se passer quelque chose. Le Seigneur pleure. Il y a trois passages de l'Évangile qui nous dit que le Seigneur a pleuré. Sans doute, il a pleuré plus que cela. Parce que devant l'impuissance humaine face au péché, devant la puissance de la mort sur l'humanité, ça vient chercher le Seigneur. Donc, ce passage est l'un des passages où ce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur pleure. Le plus petit verset de toute la Bible, Jésus pleura. Savez-vous les deux autres passages où ce que la parole nous dit qu'il a pleuré? Oui, en hébreu, Gethsémani, et sur Jérusalem. Puis le passage d'Hébreux 5, 7, comme M. Régent Raté nous rappelle, il nous dit qu'il a prié à grands cris. Il a hurlé devant Dieu dans ses larmes. Est-ce qu'on peut imaginer voir cette scène-là? Jésus qui pousse un cri vers le Père et qui pleure, il est dans ses larmes. Si Jésus était dans une réunion de prière, dans une de nos réunions de prière, on ne le trouverait pas reposant. Hein? À grands cris, dans ses larmes. Parce qu'il ressent plus que quiconque la misère humaine. Il la ressent plus que la personne qui souffre elle-même. Il la ressent vraiment. Et Jean est là pour nous traduire ses émotions internes. C'est pour ça que je vous dis aussi, si vous avez une relation tissée, serrée avec le Seigneur, Jean avait mis son oreille sur sa poitrine, mais le Seigneur aussi pourrait mettre son oreille sur ta poitrine et entendre les battements de ton cœur. Entendre ton stress. Entendre ce qui ne va pas. Il est prêt à le faire. Parce qu'on vit en lui, mais lui aussi vit en nous. Et il ressent ce qu'on vit. Il le vit vraiment. Donc, le Seigneur est au sépulcre, il pleure, il va avoir une double réaction. Une réaction diamétralement opposée. Certains vont dire, voyez comment il aimait Lazare. Et d'autres, de manière malicieuse, vont dire, ah, il avait guéri les yeux de l'aveugle né. Pourquoi il n'empêche pas Lazare de mourir? Ça, c'est pour jeter un discrédit sur un miracle important que le Seigneur avait fait guérir les yeux d'un aveugle. On veut jeter un doute. Il y a de la perversité dans cela. Il y a de la malice dans ce commentaire. Et ça, ça va pousser une autre réaction interne dans le Seigneur. La parole de Didier, il frémit de nouveau. Le mot frémir, dans certaines versions, on dit il gémit. Et là, il y a une réaction d'indignation. Parce qu'une des choses qui faisait souffrir le plus notre Seigneur, c'était l'incrédulité des gens auxquels il faisait face. Vous vous souvenez, lorsqu'il a passé dans sa ville natale, la parole de Dieu nous dit, il ne put faire beaucoup de miracles. Ça, c'est un petit peu, il ne put, il n'a pas été capable de faire beaucoup de miracles, sauf pour quelques-uns. Pourquoi? À cause de l'incrédulité des gens. Ça le faisait souffrir. Eh bien, le Seigneur, vous savez, des fois, les païens profèrent des mots complètement indignes sur Dieu. Et ils s'imaginent que ces mots-là ne reviendront pas en jugement sur leur vie. Il s'imagine que Dieu est un Dieu de glace et que ça ne lui fait rien qu'on lui dise sur lui. Les mots aussi qu'on prononce contre les serviteurs de Dieu reviendront aussi contre la personne qui les a proclamés. Les accusations reviendront contre la personne qui a accusé. Je vais prendre une image d'un pasteur que j'ai vu faire et puis qui m'a amené à une repentance, à ne plus juger mes frères et ni porter des accusations dans mon cœur. Je suis assez smart pour ne pas le faire en public, mais dans le cœur, Dieu le voit là. Regardez-moi. Voyez mon doigt, je le pointe vers vous. C'est un doigt accusateur. Je vous accuse. Mais regardez-moi bien. Pendant que je pointe vers vous un doigt accusateur, il y a trois autres doigts qui pointent dans ma direction. Une triple accusation sur ma propre personne. Dans ce temps-là, oui, on l'a vu. Lorsque David pensait que c'était un autre homme qui avait péché, il dit, qu'est-ce que mérite cet homme sur la vie de l'autre? Et il mérite la mort. Il ne savait pas qu'il prononçait une sentence contre sa propre vie. Donc, à ne pas prendre à la légère, ne pensez pas que ça ne fait rien à Dieu d'entendre les faussetés qu'on dit sur lui. Il réagira. On dit des faussetés sur Jésus-Christ ici, mais ce qui est extraordinaire, il va réagir, mais il va garder, comment je pourrais dire, une dignité paisible. Ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur, voyant cela, entendant cela, la parole de Dieu nous dit, il leva les yeux vers le ciel. Et ce passage, je l'aime beaucoup. Lever les yeux vers le ciel. Le Seigneur le faisait régulièrement. À la multiplication des pains, il a levé les yeux vers le ciel pour rendre grâce. Il le faisait pour entrer en communion avec Dieu. Il le faisait aussi en vue d'opérer une guérison miraculeuse. Il lève les yeux vers le ciel. Vous vous souvenez à la prière du publicain, lui, il n'osa pas regarder vers le ciel. Il sentait vraiment son indignité à un point qu'il n'ose pas regarder vers le ciel. Probablement, ce publicain ne connaissait pas encore toute l'affection et tout l'amour que le Père a dans le cœur. Il ne savait pas que, justement, il faut tourner nos yeux vers lui. Celui qui tourne les regards vers Dieu, son visage va être rayonnant de joie. C'est lever vos yeux. Pourquoi on lève nos yeux? D'abord pour contempler sa grandeur, pour contempler, pour l'adorer dans sa gloire divine. On lève les yeux pour voir celui qui est fidèle. On lève les yeux pour voir notre rédemption. On lève les yeux pour voir d'où viendra notre secours. On lève les yeux en haut pour voir notre salut. Docteur Wellman, dans un des messages qu'il disait, avait dit quelque chose que j'ai retenu. Il dit que l'homme est la seule créature dans le monde visible qui est bâtie uniquement sur la verticale et qui peut plonger son regard vers le ciel. Il n'y a aucune autre créature comme cela, sauf nous autres. Sauf nous autres à cette capacité d'établir une connexion avec le Très-Haut. Même la girafe, sa tête est quasiment dans le ciel, mais elle ne peut pas regarder vers le ciel. Son visage plonge à terre, ses yeux plongent à terre. Le singe qui a la morphologie la plus proche de l'homme, si vous regardez, son dos est écrasé et son regard plonge à terre. Nous sommes les seuls qui peuvent regarder vers le ciel. Et j'aime beaucoup tous ces passages, les chants qui nous disent « Je lève mes yeux vers le Dieu de mon salut. » Il y a un autre passage de Luc 21, verset 28, qui dit « Levons notre tête, regardons en haut, parce que notre rédemption est proche. » Jésus aussi lève ses yeux, mais il a un motif supplémentaire pour lequel il lève ses yeux. Il veut d'abord attirer l'attention des gens, qu'il a une relation avec le Père. Certains commentateurs disent qu'il prie, d'autres disent que c'est plus une réflexion qu'il fait avec le Père, parce qu'il n'y a pas de requête qui a été formulée. Il dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Il veut montrer à tout le monde quelque chose. Ce que je m'apprête à faire, la source vient de l'Éternel. Je suis en relation avec lui. Il m'aime et je l'aime. Et je lui parle et il me parle. Je lui demande des choses et il m'exauce toujours. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. pour ma part. En d'autres termes, il n'y a rien d'étonnant que tu m'exauces toujours. Ce qui serait étonnant, c'est si le contraire arriverait. Ce qui serait étonnant, c'est que Jésus-Christ arrive devant le paralytique, il dit « Lève-toi et marche », et le paralytique est incapable de se lever, incapable de marcher. Ça, ce serait étonnant. Là, on pourrait dire « Comment? Qu'est-ce qui se passe? » Il veut montrer à tout le monde ce que je vais faire. La source vient de Dieu. Il ne veut pas épater la galerie. Il veut que la gloire divine, la gloire de son Père puisse rayonner. Il le fait parce que dans la foule, il y a des personnes qui avaient discrédité le miracle exceptionnel qu'il a fait d'ouvrir les yeux d'un aveugle né. Il y en a qui avaient dit, c'est par Béelzébul que tu fais ces miracles-là. Là, le Seigneur dit, je vous prends à l'avance. Je vais vous montrer par qui je fais ces miracles-là. Et là, il dit, Lazare, sors. Ce qui serait étonnant, qu'est-ce qui est étonnant, que Lazare sort ou si Lazare ne sort pas? Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il a créé, ce n'est pas un coup d'essai qu'il a fait, que la lumière fut. Oh, ça a marché! J'en reviens pas. Non. Ce n'est pas un coup d'essai. Il n'y a rien d'étonnant. Il est ce qu'il est, le Créateur. Nous, lui, il se connaît, il sait qui il est. Nous, nous ne connaissons pas nous-mêmes, ni notre potentiel, ni en bien, ni en mal. On ne se connaît pas tant qu'on n'a pas été encore éprouvé. Je me souviens dans les premières années où j'apprenais à jouer le piano, et puis j'ai commencé très tard, venant d'Haïti, et puis j'étais seulement habitué au rythme des tam-tams. Le temps que les harmonies fassent de la couleur dans mes oreilles, ça a pris du temps. Et puis, on m'avait collé une invention de bac comme examen pour passer au cégep. Je n'arrivais pas à faire la première invention. Et tout d'un coup, à force de pratiquer, je l'ai faite sans erreur et j'étais étonné. Parce que je ne me connais pas. Si je me connaissais, je ne serais pas étonné. Le pire, c'est que la deuxième fois que je l'ai fait aussi sans erreur, j'étais encore étonné. Je l'ai réussi, ça ne se peut pas. Il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Jésus-Christ fait sortir les réactions internes. Et puis c'est par Jean. Ce que j'aime dans ce passage, Jean traduit le cœur du Seigneur parce qu'il avait sa poitrine. On dit de Jean, c'est le disciple que le Seigneur aimait. Et aussi, on dit de Lazare, celui que tu aimes. J'aime cette corrélation. C'est comme si le Saint-Esprit veut nous amener à cette relation. La relation entre le Fils et le Père est pour nous lumière. On veut avoir une bonne relation avec Dieu. Regardez comment le Fils avait sa relation avec le Père. Essayez pas d'être original. Non, même dans la Louange, essayez pas ça. Écoutez, l'origine, c'est quelque chose qui vient de moi et que je peux m'en vanter. Je l'ai faite de cette manière. Si je loue le Seigneur et que l'origine de ma louange vient de moi, ce n'est pas grand-chose qui est venu de moi. Il faut que ce soit Dieu qui inspire mes louanges. Il faut que c'est lui l'original. Il est difficile d'être original et d'être biblique en même temps. L'origine, c'est lui. Il est à l'origine de tout. Donc c'est lui qui doit inspirer mon message, malgré qu'il y a des faiblesses là-dedans. Pasteur Jeff, ici, m'avait donné un conseil, Pasteur Jeff, c'est vraiment un conseil qui m'a délivré. Tu m'en as donné beaucoup. Peut-être que des fois, tu as oublié les conseils que tu m'avais donnés, mais moi, je les oublie pas. Une fois, on était à Cartierville, puis je dis, je sens le fardeau d'aller apporter le message. Je tremble. Pourquoi? Parce que je venais d'une culture où ce que celui qui apporte le message, c'est Dieu qui parle en lui. Donc, si c'est Dieu qui parle en lui, il ne peut pas faire d'erreur. Alors, je m'arrangeais dans mon message pour que Dieu ne fasse pas d'erreur. Et puis, je voyais que ça ne marchait jamais. Là, je parlais à Pasteur Jeff et puis je dis, ça me fout la trouille. Puis c'est là que Pasteur Jeff me dit, l'important dans un message, ce n'est pas de faire un message sans erreur. La première fois, j'entends ça. Il dit, l'important, c'est que malgré tes limitations, le Seigneur peut donner quand même une direction à son peuple. Ça m'a délivré, Pasteur Jeff. Non, vraiment. Et je refile le même conseil à tous nos nouveaux prédicateurs qu'on voit qui se développent et puis on est vraiment, vraiment, vraiment content de voir cela. Kali les appelle souvent la relève et puis moi, je chicane Kali parce que j'aime pas ce terme. Je préfère la continuité. Et le fait que le Seigneur dit il m'exauce toujours, ça doit avoir un impact sur notre vie de prière. Parce que la parole de Dieu nous dit tout ce que vous demanderez en son nom, ben, comptez cela comme déjà exaucé. Puis là, c'est quelque chose. On a souvent prié et on a vu que certaines prières, le Seigneur a toujours répondu, mais n'a pas toujours exaucé, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a un art pour prier au nom de Jésus. Au début, je pensais que prier au nom de Jésus, c'était comme je prie au Père, mais vu que je suis indigne comme le publicain, je fais un contour de ma prière par Jésus. Lui est plus saint que moi et il va envoyer ça vers le Père. C'est pas ça, prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est lorsque Dieu nous accorde le discernement de faire la prière même du Fils. C'est cette prière qui sera toujours exaucée. Ce n'est pas en mon nom, Seigneur. C'est en son nom, c'est sa prière. Et tu dis, Père, tout ce que lui te demande, tu vas l'exaucer. Et c'est dans cette foi-là qu'on doit prier. On doit associer notre prière à celle de Jésus-Christ. Et c'est cette prière-là qui a une grande efficacité, la prière de celui qui est juste dans toutes les dimensions de ce terme. Maintenant, Jésus dit, Lazare sort, il sort. Et puis beaucoup crurent maintenant dans le message du Seigneur. Les miracles ne sont pas là pour susciter la foi. Non, Dieu agit sur la foi de quelqu'un. Regardez, comment je pourrais dire ça? À chaque fois que Jésus faisait un miracle, il disait, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, je fais le miracle et maintenant tu as la foi. Non, non, non. Ta foi, il encourage la personne qui a déjà la foi. Ici, le miracle est fait pour valider qui il est, qu'il est vraiment le messager. C'est pour valider son message. Les gens vont croire en lui. C'est pas que les gens vont croire tout d'un coup en Dieu. Non, c'était des gens qui croyaient en Dieu, mais qui n'avaient pas encore la révélation que lui est le Fils de Dieu. Lui, c'est le Messie. Lui, c'est lui qu'on a, Dieu a envoyé des cieux pour nous. Ils n'avaient pas encore cette conviction. Maintenant, je crois en lui. Les évangélistes dans notre assemblée et dans toutes les autres assemblées, pour ceux qui écoutent sur le net, vraiment, je vous encourage. Votre ministère est vital pour le monde. Vous annoncez le salut de Dieu au monde. Lorsque vous allez l'annoncer, comme dans ce passage, il y aura beaucoup de personnes qui remettront en question ce que vous allez dire. Certains médias peuvent même prendre des clips, des petits bouts de phrases pour le faire tourner à votre désavantage. Mais ce n'est pas tout. La parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ aussi. Je vous encourage, évangéliste, votre ministère est vital, il est important. Et je m'engage à prier pour vous. Maintenant, dans le verset 12 plus loin, il va y avoir une fête, un repas fait en l'honneur du Seigneur. Et qui est là dans ce repas? Tiens, tiens, Monsieur Lazare est là. Lui, il n'a pas besoin de dire un mot. Sa présence même est un témoignage de Jésus et de ce que Jésus a fait pour lui. Et j'imagine qu'il y a des personnes, peut-être des sceptiques qui n'étaient pas là pour dire, « Paraît-il que toi, tu étais mort? » Oui, j'étais mort. Étais-tu mort au sens figuré? Non, pas en tout. J'étais vraiment, vraiment mort. Ce que tu veux dire, c'est que tu as eu un malaise et le Seigneur t'a réanimé, c'est ça? Non. On me dit que mon cadavre dégageait certaines odeurs. Et c'est le seul avantage qu'un cadavre a sur nous. C'est que lorsqu'il dégage des odeurs, lui, il ne peut pas les sentir. Donc... J'étais réellement mort. Il m'a redonné à la vie. Il a son témoignage. L'aveugle né a son témoignage et on l'a vu. J'étais aveugle, je ne voyais rien. Maintenant, je vois. Il témoigne ce que Jésus-Christ a fait pour lui et il témoigne de qui est Jésus-Christ aussi. On essaye de le piéger. Et est-ce que c'est un pécheur? Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas assez de connaissances théologiques, embarquez-moi pas là-dedans. S'il est un pécheur, je ne le sais pas. Il ne dit pas qu'il n'est pas un pécheur. Je ne le sais pas. Voici ce que je sais. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait pas pu ouvrir mes yeux. Il reconnaît que la source de ce miracle vient de Dieu. Et c'est ça qui est important pour Jésus-Christ. Parce que l'Antéchrist fera aussi des miracles. Mais la parole de Dieu dans Thessaloniciens nous dit que ce sont des miracles mensongers. Probablement, il y aura des choses surnaturelles, du feu qui sortira du ciel. Mais pourquoi c'est mensonger? Parce que la source de ce miracle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas chercher les miracles, avant tout, comme les Juifs qui cherchaient les miracles, c'est chercher Dieu. Si mon peuple prie, s'il s'humilie, s'il se détourne de sa voix, de ses voies, s'il cherche ma face, d'abord, cherchez Dieu. On cherche souvent la guérison auprès de Dieu, les choses qu'il peut nous donner, et on oublie de le chercher lui-même. Cherchons-le, levons nos yeux. Maintenant, comme je vous disais, vous aussi, vous avez un témoignage. Et vous ne devez pas nourrir une foi silencieuse. Vous devez parler, vous devez rendre témoignage. Je sais, parmi vous, certains vont dire, j'ai pas la parole facile. Le Seigneur ne cherche pas quelqu'un qui a la parole facile. Il cherche quelqu'un qui est témoin. Il cherche des témoins. Même avant de nous envoyer enseigner, il nous envoie d'abord comme témoins. Pasteur Jeff avait dit quelque chose il y a quelques années. Il y avait une équipe autour de toi. Et puis tu avais dit au prédicateur, il dit, pour moi, je l'avais pris comme quelque chose que tu m'avais imposé et c'était salutaire pour moi. Tu avais dit, je veux que tous les prédicateurs ici soient toujours prêts à délivrer un message à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Soyez toujours prêts. Priez le Seigneur pour qu'il vous donne la parole à propos de les circonstances de la journée. Puis j'ai pris un mot. Chaque jour, je prépare un message au cas où que le Seigneur m'appelle à prêcher chaque jour. Je ne vais pas prêcher tous les jours, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va apporter de la santé dans mon âme. Pourquoi on est transporté par une parole qui est continuellement là? Une parole nous habite. En toute humilité, c'est à mon tour de vous relancer. Tout ce qui a marché pour moi, ben je vais vous le redonner, ça c'est certain. Je veux que vous soyez toujours prêts à rendre témoignage de Jésus-Christ. Je veux que n'importe quelle heure du jour, même si vous voulez faire un cauchemar et puis quelqu'un vous réveille et dit, dis-moi, qu'est-ce que tu sais de Jésus? Toujours prêt à donner un témoignage sur son œuvre expiatoire. Peut-être on va dire, écoute, moi je suis gêné, moi je ne vais pas déranger le monde. Non, brise le silence de ta foi, exprime-toi, ne te tais pas, parle. Ah, je n'ai pas le langage de la parole. Tu n'as peut-être pas le langage, mais tu as le don de la parole. Et vous savez pourquoi Dieu nous donne le don de la parole? Avant tout, c'est pour pouvoir témoigner notre reconnaissance envers lui. C'est un don qu'il nous donne. Parlez, brise le silence. Levons-nous et témoignons. Lazare a connu une résurrection, l'autre, ses yeux sont ouverts, et puis on pourrait se dire, « Seigneur, mon témoignage n'est pas aussi percutant que ces hommes-là. » Le Seigneur ne cherche pas de la percussion dans ton témoignage. Il cherche à ce que tu parles. Parle de lui. Dis au monde quel genre de personne qu'il est. Et en passant, c'est faux lorsqu'on dit on n'a pas un témoignage aussi percutant que Lazare et que l'aveugle né. C'est faux. L'apôtre Pierre va dire, il nous a fait passer des ténèbres. On était comme lui là aussi, l'aveugle né, à sa merveilleuse lumière. Et maintenant, nous voyons. Il nous a fait passer de la mort. Nous étions spirituellement comme des Lazares. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Nous avons un témoignage. Et comment les gens vont pouvoir voir cette vie qui nous anime? Eh bien, c'est en aimant, en s'aimant les uns les autres. De même amour que le Christ. C'est en aimant les autres personnes. Ils vont voir que nous sommes passés de la mort à la vie. Le genre d'amour de Christ... un mourant ou un mort ne peut pas reproduire ça. Il faut qu'il soit ressuscité en Christ. Il faut que la vie de Christ soit en lui pour pouvoir aimer comme le Christ. Il y a tellement de chants d'amour où on voit les gens essayent d'aimer du plus grand amour qui soit. Puis le gars qui a chanté ça, là, il est rendu, je ne sais pas, sur combien de ruptures amoureuses. On chante l'idéal de l'amour. Mais Dieu, ce n'est pas l'idéal de l'amour seulement. Il est amour. Levons-nous et témoignons. J'aimerais vous dire une dernière chose avant de vous quitter. Tu nous as enseigné vraiment sur la grâce de Dieu. Et dans ce passage, on a une manifestation de la grâce de Dieu hors du commun. Si quelqu'un doute que le salut est sans les œuvres de la loi, sans les œuvres tout court, ce passage-là nous le dit, Lazare est mort. Il ne peut avoir aucun mérite. Il est mort, il n'est pas assoupi dans le sommeil comme pensaient les disciples. Il ne peut acheter la résurrection, il ne peut faire quelque chose qui pourrait faire que le Seigneur. Tout dépend seulement du Seigneur. Il n'y a rien qui dépend de lui. Il est mort. Nous aussi, nous étions morts dans nos fautes. Et le Seigneur a eu pitié de nous. Il nous a rendus à la vie. Cependant, Lazare devait mourir une seconde fois. Le pourquoi, c'est qu'il n'appartenait pas à Lazare d'être celui qui allait être le prémisse de ceux qui meurent et qui ne mourront jamais. Ça appartient au Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, Christ est ressuscité et il ne meurt plus. Et il est là en tant que prémisse. Et prémisse veut dire qu'il y en aura, vous autres là, et tous ceux qui croient, tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur partout au monde entier, il y en aura beaucoup d'autres. Mais Christ étant la prémisse, ou le prémisse, je ne sais pas. Il n'appartenait pas à Lazare de cela, c'est au Christ. Lazare est une figure de l'œuvre expiatoire de notre Seigneur. Du résultat, du moins. Bon, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, retenez ces trois choses. Toujours avoir avec vous un témoignage de Jésus, un témoignage de ce qu'il a fait pour vous, un témoignage de son œuvre expiatoire, et parler. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu, nous te remercions d'abord pour ta mort et ta résurrection, et nous te remercions aussi pour notre mort et notre résurrection, parce qu'en toi, nous avons ce privilège extraordinaire. Nous te remercions de nous avoir fait passer de la mort à la vie. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur. Maintenant, nous sommes en pleine lumière, ta lumière. Tu as mis de la lucidité dans nos esprits. Nous qui avions des esprits fêlés, Seigneur, qui avaient des réflexions bizarres, moi le premier, Seigneur. Aujourd'hui, c'est ta parole qui illumine notre âme, qui est la nourriture pour notre âme. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir les mêmes émotions que toi tu avais. Tu ne nous as pas dit qu'il faut annihiler les émotions qu'on a. Jamais tu l'as dit dans ta parole. Mais ta parole dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayons les mêmes émotions que toi tu avais. Ces émotions de compassion pour ce monde. Oui, Seigneur, nous sommes devenus familiers. Moi, le premier, des fois, je sors dehors et que je ne ressens aucune compassion pour ce monde que je vois qui périt. Puis je me dis, Seigneur, ce n'est pas normal, ce n'est pas ton regard sur le monde. Toi, ton regard est rempli de compassion. Donne-nous ton regard sur le monde, afin qu'on s'engage dans la prière et qu'on s'engage à rendre témoignage que tu es la vie et que tu donnes la vie à quiconque vient vers toi. Quiconque veut venir au Seigneur, qu'il vienne. Pendant que nous sommes dans un instant de prière, le Seigneur me met à cœur de faire un appel. Je ne vous demanderai pas de lever la main ni de venir en avant. Mais je vous demanderai une ouverture de votre cœur pour que le roi de gloire puisse entrer. Si quelqu'un qui croit vraiment que le Seigneur est ressuscité, qu'il est la résurrection, crois-tu cela? Eh bien, que cette personne-là le confesse et qu'il ouvre son cœur et tu auras la vie éternelle. C'est garanti par le Seigneur lui-même. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.